dernier rêve avant la nuit? Karine Delphini.
Bonsoir. Avez-vous vu des monstres passer sous vos fenêtres? En ce soir d'Halloween, pourquoi ne pas cauchemarder ensemble? Une histoire inquiétante va nous occuper un bon moment. Alors, fermez portes et fenêtres, on ne sait jamais. Je vous fais peur. Bon, alors, c'est Adrien Majora qui est à la réalisation, Jean-Baptiste Roumains à la programmation musicale. On va démarrer avec une chanson qui est tirée de l'album « Monstre-toi » de Jade Ouillot.
Je suis un monstre, si ça ne se voit pas de l'intérieur, ça fait vraiment peur. Je m'appelle Jude Blatt, rescapé des Carpates, un fantôme télépathe, un invisible mille pattes. J'ai le cœur dans la bosse, hérité des comprachicos qui me cherchaient des crosses alors que j'étais juste un gosse. Et sur cette terre-là, ils m'ont raconté Dracula. Conservez votre sang-froid, il me réserve quelques froids. Un zombie, le ventre, pour vous, c'est le ventre. Pour moi, c'est le paradis lorsque la peur. Je fais un exemplaire non déguisé d'Adolf Ziegler. Et je me paye le luxe d'avoir pour amis Beetlejuice qui préfère à l'eau plate mon très excellent Jude Blatt. Et il n'est pas rare que l'on me trouve bizarre. Ce n'est pas par hasard car je file le cafard.
Terrifiés. Le cœur dans la bosse, Jade Ouillot nous a mis dans l'ambiance de ce 31 octobre. Attaquons-nous à notre histoire, l'arbre, tiré du livre Un fauteuil pour trois, écrit par l'auteur Catherine Gaillard-Saron, publié aux éditions Plaisir de lire. Il s'appelait Émile, mais tout le monde l'appelait Milo. À le voir si bourru, si farouchement solitaire, on avait de la peine à imaginer qu'il avait été marié un jour. Il l'avait été cependant, et à une femme divinement belle. Elle s'appelait Vénus. Ils avaient été heureux ensemble, jusqu'à ce jour d'été où elle s'était volatilisée. On n'avait jamais retrouvé sa trace et personne n'avait plus entendu parler d'elle. Émile se souvenait que c'était exactement au solstice d'été. Les gens, alors sans égard pour sa peine et sa douleur, l'avaient raillé, s'étaient moqués de lui. Il les entendait encore. « Bah, belle comme elle l'était, elle t'aura fait cocu ta Vénus, mon pauvre Milo. À l'heure qu'il est, elle a changé de cieux et de dieu. Allez, va, t'en retrouveras bien une autre. Oublie-la. » C'est depuis cette époque qu'on l'avait affublé de ce sobriquet qu'il détestait. Après le départ de Vénus, les gens avaient tout naturellement pris l'habitude de parler de leur histoire en disant goguenard « Ah, vous parlez de la femme d'Émile, la Vénus de Milo !» Et tout fier de leur bonne plaisanterie, s'esclaffaient. Vénus était donc partie, et la seule chose qui restait d'elle était ce surnom ridicule. Les années avaient passé, asséchant le cœur d'Émile comme ce coin perdu du Méjean. Il semblait que rien ne pouvait apaiser son chagrin. Enfermé dans sa souffrance, il était devenu taciturne et solitaire. Déçu par l'attitude des villageois, il s'était éloigné du village, renouant progressivement avec une sorte d'état semi-sauvage. Il vivait seul, dans une petite maison de berger vétuste, isolé. La solitude l'avait rendu bizarre, ténébreux. On le voyait souvent marcher au loin, sa longue silhouette efflanquée se dessinant sur l'horizon. Il parlait tout seul, en agitant les mains, l'air hagard. Et ceux qui avaient eu l'occasion ou le courage de l'approcher avaient dit alors qu'il racontait de drôles de choses. Des choses qui semblaient tout droit sorties d'un cerveau malade. Il prétendait que ses yeux noirs hallucinés lançaient des éclairs, brillaient d'une lueur jaune inquiétante dans la nuit. Il disait aussi qu'il psalmodiait des propos incompréhensibles d'une voix rauque, en déambulant droit devant lui. Un arbre, qu'il disait maudit, revenait sans cesse dans ses élucubrations. Les gens pensèrent que la disparition de sa femme l'avait rendu fou, qu'il divaguait. Il fut bientôt perçu comme une menace. Les habitants du village le mirent à l'écart, telle une brebis galeuse. On se mit à le craindre et puis à le fuir. Et peu à peu, les villageois finirent par oublier le véritable Émile. Dans leur esprit étroit et superstitieux, ne subsista plus que Milo, être misanthrope et étrange, qui leur inspirait de la peur et qu'ils évitèrent. Il devint le bouc émissaire, l'épouvantail par excellence, celui que les parents invoquaient pour faire tenir tranquilles les enfants désobéissants. Cette fin de mois de juin, assis derrière les vitres de sa masure, Milo, tourmenté et agité, observait l'arbre dressé au milieu des rocailles. Situé à quelques dizaines de mètres de lui, en plein milieu d'un paysage sec et aride, c'était un grand chêne massif et noueux, presque millénaire. Sa frondaison était dense et cachait, il le savait pour l'avoir constaté au fil des hivers, une ramure anormalement fournie. L'arbre avait une particularité bizarre. Bien que son feuillage fût abondant, les extrémités de toutes ses branches apparaissaient à découvert. Et de loin, l'effet était saisissant. Émergeant de la masse compacte et verte, les fines ramilles donnaient l'impression de mains suppliantes tendues vers le ciel. Les soirs d'orage, les éclairs qui l'illuminaient de leurs violents éclats blancs accentuaient encore la ressemblance et lui causaient de grandes frayeurs. Et puis les jours de grand vent, étaient-ce ses propres angoisses ou des hallucinations dues à ses beuveries qu'il tourmentait? Ah oui, il était presque sûr d'avoir entendu comme des plaintes humaines venir de l'arbre ou des branches. Milo n'était pas coire ni poltron. Plusieurs fois, il avait essayé de s'approcher de l'arbre. Et à chaque tentative, il avait perçu quelque chose de malsain planer autour de lui. Une présence invisible, maléfique, un souffle qui l'avait glacée. Une force puissante émanait de ce chêne et l'attirait, un magnétisme irrésistible qui lui fichait une peur bleue. Encore maintenant, quand il y songeait, il en avait des frissons, ses poils se hérissaient sur sa peau. Oui, pour lui, l'arbre était vivant. Il respirait. Quelque chose battait au cœur de ses fibres. Quelque chose qui lui donnait ou lui apportait une énergie qu'il ne savait pas comment nommer, mais que l'on sentait alentour. Et l'arbre lui faisait peur. C'était son ennemi, son rival. Personne n'avait voulu l'écouter. Pourtant, quand Vénus avait disparu, il avait essayé de dire les choses qu'il avait vues. Mais les gens s'étaient moqués de lui, l'avaient ridiculisé. Et ensuite, il n'avait plus envie ou plus pu dire ce qu'il savait. Avec le temps, lui-même avait commencé à douter. Et blessé, il avait quitté le village. Une force inconnue l'avait alors poussé à venir s'installer dans les parages de l'arbre, à proximité de la maison où il avait vu se dérouler toutes ces choses. Depuis, avec pour compagne la solitude et la folie, il veillait, attendait anxieusement les solstices d'été. Car ces soirs-là, des faits étranges se produisaient sur la lande. Depuis plusieurs années qu'il vivait là et qu'il surveillait l'arbre, il avait remarqué que toutes ces nuits, noires comme de l'obsidienne, étaient silencieuses et sans lune. Et bien qu'il fût courageux, jamais encore il n'avait osé s'aventurer hors de sa maison pour voir ce qui se passait dehors. L'obscurité totale, la malfaisance qu'il sentait émaner de l'arbre, l'angoisse qui l'habitait, le paralysait. Année après année, il se disait qu'il affronterait l'arbre, mais à chaque fois, quand les horribles bruits s'élevaient dans la nuit, la peur le pétrifiait. Depuis le lit où il se terrait, ses craquements, qu'il ne pouvait définir, s'engouffraient par tous les interstices de la cabane, la faisaient trembler épouvantablement. Il avait l'impression que dehors, quelqu'un arrachait les dents monstrueuses d'une bouche qu'il n'était plus encore. Il entendait des choses s'abattre en pluie sur le toit de sa cahute. Il pensait à des petits cailloux ou de la terre. Il s'imaginait alors qu'on l'enterrait vivant, que la maison était son cercueil. Des frissons parcouraient tout son corps. Et lui aussi tremblait. Alors pour se donner du courage, il buvait de la gnôle, il tentait d'oublier cette horreur en s'enivrant. Et c'est pendant ces longues nuits-là qu'ivre mort, il sombrait dans une sorte de torpeur qui faisait remonter des flots de souvenirs à sa conscience, souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de sa mémoire et qui ne revenaient le hanter qu'au solstice d'été. Il avait 32 ans, Vénus 20. Elle était si belle qu'il était tombé fou d'amour au premier regard. Après une cour assidue, elle aussi avait succombé à son charme ténébreux. Et ils s'étaient aimés avec passion, à la folie. Mais le temps avait passé, flétrissant les élans de jadis, et puis l'habitude s'était installée, et Vénus s'était éloignée. Émile, lui, l'aimait toujours follement. Et malgré ses efforts pour la distraire, elle s'ennuyait. Peut-être que s'ils avaient eu un enfant. Cet été-là, en dépit de ses 35 ans, Vénus était plus belle que jamais. Éperdu d'amour, Émile craignait constamment de la perdre. Il ne pouvait imaginer la vie sans elle. Il se souvenait du jour où était arrivé l'étranger. Le gars s'était installé près de la taverne du village et il grattait une vieille cithare à longueur de journée. Il était beau, jeune, insouciant. Émile avait immédiatement ressenti de la jalousie envers cet homme, libre, comme le vent qui soufflait dans ses cheveux longs. Et il avait compris que Vénus lui échappait, qu'elle aussi subissait l'appel irrésistible de cette liberté. Le gars l'avait séduite. Ça aussi, il l'avait senti. Malgré les dénis passionnés que Vénus lui avait opposé. Leurs étreintes n'avaient plus été les mêmes. Non, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était cassé. persuadé de sa trahison. Émile l'avait suivi plusieurs soirs sur la lande. De loin, il avait observé, dévoré par la jalousie, l'abri où se rencontraient les deux amants. La mort dans l'âme, il avait assisté, impuissant, à la fin de leur amour. Il avait le cœur brisé et souffrait le martyr. Mais il l'aimait toujours et il espérait son retour. C'est là que, pour la première fois, il avait remarqué l'arbre. Le chêne était pile dans l'axe de la petite cabane de pierre. Et à 7 heures du jour, son ombre immense pointait comme une flèche dans la direction de la maison, juste en son centre, en plein cœur. À ce moment-là, s'il avait été cette flèche, il les aurait transpercés tous les deux. Pendant une semaine, il était revenu, malheureux comme un chien abandonné qui attend le retour de son maître. Silencieux, il avait fait le voyeur, regardant sans rien voir mais imaginant tout. Et ses pensées lui empoisonnaient la tête. Un autre faisait l'amour à Vénus, un autre que lui la tenait dans ses bras. Il lui disait des mots qui n'appartenaient qu'à lui, qu'à eux. Il s'était torturé l'esprit, se nourrissant des miettes qu'ils volaient à leur intimité. Et dans son cœur à vif, une plaie inguérissable s'était formée. Il n'était plus que ressentiment et douleur. Pendant longtemps, il avait pleuré en silence, caché derrière un taillis à observer jusqu'à la nausée, la destruction de son bonheur. Complètement absorbé par son chagrin, il avait totalement perdu la notion du temps. Il en était arrivé à tel point de souffrance et de désolation que, subitement insensible, il n'avait plus rien ressenti du tout. Ivre de tristesse, comme anesthésié, il avait alors cessé de pleurer. Il avait eu la sensation bizarre de se détacher de son corps. Il s'était élevé à 1 mètre au-dessus du sol et avait pu contempler, étrangement indifférent, son enveloppe corporelle recroquevillée sur la terre. Pauvre défroque meurtrie, à présent vide et inutile. Et à cet instant précis, il avait vu ou cru voir l'inimaginable. L'arbre s'était mis en marche dans un bruit d'arrachement épouvantable. Ses branches avaient remué dans tous les sens et il lui avait semblé que les feuilles s'étaient mises à gémir dans l'obscurité. Saisi de stupeur, Émile avait eu, dans le même temps, l'impression de réintégrer son corps et de perdre la tête. Avec effroi, il avait regardé l'arbre s'avancer vers la cabane. Et à ce moment-là, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pu en prévenir les occupants tant la peur le pétrifiait. Muet d'horreur, il endura passivement ce qui se déroulait sous ses yeux hallucinés. Terrifié, il était resté longuement prostré derrière son buisson. Évitant le moindre mouvement, maîtrisant sa respiration et son cœur affolé, craignant par-dessus tout de manifester sa présence à l'arbre. Et en dépit de son épouvante, il avait tenté de rassembler ses esprits et de se raisonner. Mais non, non! Ce n'était pas possible, une chose pareille ne pouvait exister. Et pourtant, la rémanence de la scène qu'il avait vécue hantait toujours son esprit. Malgré les efforts qu'il faisait pour se persuader que rien n'était arrivé, les images incrustées dans ses rétines lui disaient le contraire. En proie à une angoisse insupportable, il avait frénétiquement cherché une explication à ce phénomène. Était-ce le bruit monstrueux qu'il avait sorti de sa transe ou était-ce la transe qui avait généré cette abomination? Malgré ses efforts, il n'était pas parvenu à se souvenir du moment exact où il avait véritablement réintégré son corps. Mais l'avait-il quitté? Il en doutait à présent. Bouleversé par ce qu'il avait vu, Émile avait même pensé qu'il était en train de devenir fou, Avec un sentiment d'horreur, il était allé jusqu'à imaginer avoir lui-même provoqué ces visions. Incarnation abominable de son exécration. Atroce hallucination de son esprit né du désespoir et de la haine meurtrière qui l'habitait pendant qu'il espionnait les amants maudits. « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi » avait-il alors imploré dans son immense détresse, soudain convaincu de sa culpabilité. Dans un état de confusion extrême, ne sachant plus s'il avait vécu ou rêvé la scène qui s'était déroulée sous ses yeux, il s'était alors couché sur le sol comme un animal blessé. Et terrassé par l'angoisse et la fatigue, il s'était endormi d'un coup, tremblant et l'esprit hanté de cauchemars. Ce ne fut qu'au petit matin, quand le jour eut chassé les ombres et les monstres de la nuit, qu'Émile, courbattu et transi, avait osé bouger. Péniblement, comme abruti par une cuite carabinée, il s'était relevé avec un violent mal de tête et des nausées. Son corps n'était que souffrance, la trouille magistrale de la nuit ayant tétanisé et empoisonné tous ses muscles. Ses dents, cet état lamentable et l'esprit confus, que les événements de la nuit lui étaient revenus par flash. Il avait eu soudain envie de vomir. Les souvenirs qui avaient afflué lui avaient alors semblé si monstrueux et fantastiques qu'il n'était pas parvenu à y croire, et il avait refoulé avec une volonté égale à la terreur que cela générait les images épouvantables que lui avait renvoyées sa mémoire. Depuis cette terrible nuit de solstice d'été, Émile n'avait plus jamais été le même. Malgré ses nombreuses tentatives pour mettre en garde les villageois, les avertir de ce qui s'était passé, on n'avait pas cru. Mais non, traité de démon par les habitants, il avait pris ses distances. Rejeté et incompris, Émile errait depuis sur la lande, gesticulant et palabrant tout seul. De temps en temps, il se rendait au village pour y chercher des provisions, surtout du vin. Régulièrement, avant de rentrer, il s'arrêtait à la taverne, il buvait jusqu'à l'ivresse, car c'est seulement lorsqu'il atteignait cet état que les choses qui le hantaient pouvaient sortir de lui. Il haranguait, invectivait alors les clients du bistrot de sa voix rauque, agitant ses grands bras maigres et roulant des yeux terrifiés. « Je vous le dis, écoutez-moi, vous tous, l'arbre, il est maudit, il marche, et je l'ai vu de mes yeux, la vieille baraque en pierre, c'est comme un piège. » C'est lui qui a assassiné Vénus, qui l'a dévoré, et l'autre aussi. Allez, tais-toi, Emilo, t'as trop bu. Rentre chez toi à présent. Allez, va-t'en, tu effraies les clients. Écoutez-moi, je l'ai vu. L'arbre, c'est comme une araignée. Il attend sa proie, et la cabane, c'est sa toile. Il est patient, très patient. Il peut attendre des années. Des années, s'il le faut. Allez, ça suffit, Milo, dégage. Tu dégages le plancher ou je te jette dehors à coups de pied. Dès lors, désespéré, Émile s'en retournait dans la solitude de sa bicoque. Assis derrière la fenêtre de son taudis, une bouteille de pinard à la main, il observait comme un démon l'arbre et la maison, puis la maison et l'arbre. Nageant en pleine paranoïa, son regard halluciné allait inlassablement de l'un à l'autre. Et plus il picolait, plus l'arbre prenait l'apparence d'une araignée et plus la maison lui apparaissait comme sa toile. Il attendait. Il voulait voir, espérait surprendre la proie qui se ferait prendre. Comme une sentinelle, il surveillait, il guettait l'instant où il en aurait la preuve. Il voulait tellement savoir, ne plus être dans l'incertitude. Le doute le rongeait, le détruisait. Émile haïssait l'arbre. Il le maudissait de lui avoir enlevé Vénus. Mais en même temps, au fond de lui, une sourde angoisse l'habitait. Que s'était-il donc réellement passé ce soir-là, Il ne se le rappelait plus vraiment, il était si désespéré et anéanti par ce qu'il avait découvert entre Vénus et cet homme. Encore maintenant, quand il y pensait, le chagrin le transperçait comme une lame. Tout était si confus, et les choses lui revenaient par bribes. Et puis ce trou noir qu'il avait ressenti, son propre corps qu'il avait vu étendu par terre. Et des idées bizarres lui venaient alors. Et si c'était lui qui, dans un moment de folie, avait tué Vénus et son amant? Pouvait-il l'avoir fait sans en être vraiment conscient? Avait-il tout occulté, refoulant les événements dans son esprit? Avec le temps, le doute s'était installé. Il se revoyait ce matin-là, quand des heures après la terreur de la nuit, il avait enfin osé bouger et se diriger vers la cabane. Il avait dû faire un tel effort pour surmonter son épouvante qu'aujourd'hui encore, il ne savait pas où il avait trouvé la force d'aller voir. Il le fallait. Il n'aurait pu rester comme ça sans savoir. Il devait voir de ses yeux ce qui était arrivé à Vénus et à son amant. La culpabilité et la lâcheté de n'avoir rien tenté pour empêcher ce qui était arrivé le taraudait également. Avec précaution, lançant à tout moment des regards anxieux en direction de l'arbre qui semblait l'espionner, il s'était avancé lentement jusqu'à la porte branlante. Et d'un coup sec, il l'avait enfoncé du pied, et puis il était entré. Prudemment, le cœur battant, il avait parcouru du regard la pièce à peine éclairée par la lumière du jour. Il ne se rappelait plus avec précision lequel des deux sentiments ressentis à ce moment-là avait été le plus fort, l'incompréhension ou la terreur. Rien. Il n'avait rien vu. Et ce vide l'avait terrifié. Émile s'était attendu à tout, mais pas cette vacuité. Il avait eu beau chercher, il n'avait trouvé aucune trace de lutte ou de quoi que ce soit d'autre. Pas le moindre signe suspect, pas un grain de terre ou une feuille quelconque, rien. Absolument rien. Comment était-ce possible? Avait-il songé en proie à une angoisse vertigineuse qui l'avait rendu presque fou? Il avait bien vu ce qu'il avait vu tout de même. Il ne pouvait pas avoir tout inventé. Son éventuelle démence l'avait terrorisé. Si vraiment l'arbre était venu là cette nuit, il aurait dû trouver des indices. Or, rien ne laissait entrevoir cette possibilité. Comme pétrifié par cette réalité qui le déroutait, son esprit s'était bloqué. Émile s'était laissé tomber sur la paillasse près du mur et brusquement avait hurlé de douleur en l'atteignant. Persuadé que sa dernière heure était arrivée, il avait jailli comme un ressort au milieu de la pièce. Tremblant de tous ses membres, le cœur battant à tout rompre, il avait lancé des regards hallucinés tout autour de lui, s'attendant au pire. Et puis soudain, il avait compris. Une épingle à cheveux appartenant à Vénus était plantée droit dans sa cuisse. Tout en la retirant, il avait pensé « Je n'ai donc pas rêvé. Elle était bien là hier soir avec son amant. » Puis la terrible interrogation avait envahi son esprit. Mais alors, où étaient-ils donc passés tous les deux? Complètement désemparé, il était retourné au village, sans avoir osé s'approcher de l'arbre. Empli d'un espoir insensé, il avait attendu longtemps, cloîtré chez lui, le retour de Vénus. Mais il n'était jamais revenu. Et depuis ce jour-là, quelque chose de l'arbre s'était infiltré en lui et l'avait contaminé, distillant dans son esprit un poison fait de culpabilité et d'incertitude, de terreur et d'indicible désespoir. Trois fois déjà, il avait entendu l'arbre se mouvoir. Trois fois déjà, il avait enduré les pires tourments, prostré sur sa paillasse, les mains sur les oreilles, l'agneau à la portée de main. Il avait entendu l'effroyable bruit d'arrachement en direction de la maison en pierre, la terre giclée sur le toit et sa bicoque trembler sous les grondements. Mais il n'avait pas osé sortir. Il ne pouvait que boire et fermer son esprit à cette monstruosité. Il garçon voulait à l'acheter, mais c'était au-dessus de ses forces. Un jour, oui, un jour, il se l'était juré, il oserait, il trouverait le courage de l'affronter. En attendant, sa vie ne se résumait plus qu'à un face-à-face entre l'arbre et lui. Le chêne était devenu le support de tous ses fantasmes, sa matière à penser, sa sève. Il avait tellement intégré, intériorisé, qu'il était devenu l'arbre, lui prêtant des sentiments égaux aux siens. Il lui parlait, l'invectivait, particulièrement la nuit quand il était saoul. Seul l'alcool lui donnait le courage de l'insulter. Il n'osait pas autrement. Il lui semblait cependant que l'arbre se nourrissait de sa haine, et cela l'effrayait. Plus Émile était en colère, plus le chêne lui paraissait maléfique. Il s'interrogeait, qui de l'arbre ou de lui était possédé? Et si c'était lui qui générait tout ça? Lui qui animait l'arbre de sa haine, faisait battre son cœur. Enfermé dans son monde, dans sa douleur et dans ses délires, Émile perdait toujours plus le sens de la réalité. Il sentait bien que les choses lui échappaient, que sa folie l'entraînait au-delà de ce qu'il pouvait désormais contrôler. Il perdait pied, il sombrait, corps et âme, dans l'ivrognerie. Il n'y avait plus que le vin qui lui apportait encore un peu de réconfort. À présent, il s'enivrait méthodiquement tous les soirs, dans l'espoir de fuir les cauchemars et les terreurs que lui apportait la nuit. Car il savait trop de choses, Émile. Trop de choses que les gens ne voulaient pas savoir. Et ce fardeau qu'il devait porter seul, sans espoir de le partager, le rendait fou. Il n'en pouvait plus de toutes ces horreurs qu'il avait dans la tête. C'est pour ça qu'il buvait autant, pour les noyer, pour oublier. La dernière fois qu'il avait entendu l'arbre bouger, c'était au solstice d'été. 2 ans exactement s'étaient écoulés. Émile avait bien vu ces jeunes rôder autour de la maison en pierre. Comment ne les aurait-il pas remarqués, lui qui la surveillait du matin au soir? Il avait même essayé de les prévenir, de ne pas entrer dans cette cahute maudite. Et les mômes lui avaient ri au nez, et lui avaient dit d'aller cuver son vin ailleurs. Alors Émile était retourné dans sa baraque. Ce soir-là, pour la 3e fois, il avait entendu les bruits sinistres et comme d'habitude, il était immédiatement allé chercher sa bouteille de Nuol pour se saouler. Et rapidement, il avait sombré dans un coma éthylique profond et il ne s'était réveillé que 2 jours plus tard. C'est seulement une fois dégrisé, lorsqu'il était allé rechercher des provisions et du vin au village, qu'il apprit que 2 jeunes gens avaient disparu. Bien sûr, les villageois avaient dit qu'ils avaient fugué, que c'était une histoire d'amour. Oui. Elles avaient bon dos, ces histoires d'amour. C'était le 3e couple qui disparaissait dans la nature, sans que personne n'ait l'air de s'en inquiéter. L'automne était revenu dépouiller le chêne de ses feuilles. Émile avait vu. Une fois de plus, il avait pu constater que 2 nouvelles branches étaient venues se greffer sur le tronc noueux. Depuis la disparition de Vénus, cela faisait maintenant 6 branches qui, monstrueuses, sortaient du tronc énorme de l'arbre comme des bras suppliants vers le ciel. Ce spectacle-là lui flanquait vraiment une trouille de tous les enfers. Toutes ces branches anormales, invraisemblables, qui lui semblaient s'agiter et gémir dans la nuit, le terrorisaient. Il vivait dans la hantise de l'hiver. Émile avait tout tenté pour avertir les gens de ce qui se passait sur la lande avec l'arbre. Mais quand il venait au bistrot raconter sa version des choses, on le jetait dehors comme un chien enragé. Alors il avait cessé de s'y rendre, se contentant d'aller chercher son pinard au village, de le boire chez lui. Et pendant des années, il était resté seul avec cet horrible secret dont personne ne voulait, se nourrissant du lait et du fromage que lui donnaient ses 2 chèvres. Il survivait. On ne sait trop comment, une crasse, une puanteur indicible. On le voyait venir chercher son vin à la tombée du jour et s'en retourner aussitôt avec son ballot sur le dos. Il ne parlait plus. Ses yeux semblaient regarder au-delà de la réalité. Abandonné à lui-même comme une bête, il était absolument seul au monde, hormis l'arbre. Maintes fois pourtant, sans jamais en trouver le courage, il avait tenté de braver le chêne, de le défier. Et puis lentement, l'alcool ravageant son corps et son esprit, il avait sombré dans une sorte de coma éveillé. Et il ne sut bientôt plus qui il était et ce qu'il avait été. La seule chose dont il se souvenait, c'était l'arbre. Un arbre monstrueux qui avait pris racine dans sa tête, propageant jusqu'au plus profond de son âme ses radicelles pénétrantes, envahissantes et destructives, l'enchaînant à jamais à sa folie. Il avait continué à boire et boire et boire et boire encore, et un jour, un braconnier l'avait trouvé mort. Le braconnier avait trouvé le corps d'Émile, déjà en décomposition, gisant au pied d'un grand chêne sur la lande. Mais ce qui l'avait littéralement épouvanté était que son cadavre était presque tout recouvert de racines brunâtres. Comme si, avait-il dit, l'arbre s'apprêtait à le faire disparaître ou à le dévorer. Il avait dit également qu'un souffle malsain émanait du voisinage de l'arbre, comme s'il respirait. Et affolé, il avait pris ses jambes à son cou, avait couru porter la nouvelle au village. Ils étaient tous venus. Personne n'avait osé s'aventurer seul voir ce qu'il était advenu de ce Milo qui les avait tant effrayés. Ultime curiosité et cruauté posthume envers cet homme dont personne ne s'était soucié. Ayant trouvé le corps de Milo trop abîmé et déjà à moitié enterré, ils décidèrent de l'ensevelir au pied de l'arbre. Peut-être craignait-il aussi que, inhumé au cimetière du hameau, Milo ne vienne les hanter éternellement. On ne prit pas la peine de planter une croix sur sa tombe. L'arbre était bien suffisant, pensèrent-ils tous. Un arbre maudit pour un homme qu'il était tout autant, voilà, qui leur semblait juste. Il n'eut pas droit à l'eau bénite, ni même à une homélie. Dernière pelletée de terre jetée sur sa sépulture improvisée, les villageois repartirent précipitamment sans un regard, ni pour Émile, ni pour l'arbre. La lune, cette nuit-là, éclaira de sa lumière noire la tombe fraîchement retournée, et juste au-dessus du chêne, Vénus, l'étoile du berger, brilla d'un éclat particulier. Le feuillage de l'arbre, doucement agité par la brise, se mit à gémir. C'était comme une litanie incompréhensible, et ses branches, telles des bras, semblèrent implorer le ciel en une prière désespérée. Un craquement, comme un éclatement, vint soudain troubler la nuit estivale. Sur le tronc noueux et plusieurs fois centenaire, une énorme protubérance ligneuse apparut. Dans un frémissement de feuilles, elle se déploya lentement, et de fines ramilles, pareilles à des mains, se tordirent dans la nuit du solstice d'été. Quand l'automne fut venu et que l'hiver eut dépouillé le chêne de toutes ses feuilles, on put voir que deux branches, parmi les sept nouvelles qui semblaient avoir mystérieusement jailli autour de son tronc, s'étaient rejointes. Leur ramille tordue avait formé un enchevêtrement inextricable juste au-dessus de la tombe de Milo. À partir du solstice d'hiver, cependant, l'arbre s'était mis à dépérir. Et cette nuit-là, la dernière née des sept branches, pareille à un monstrueux serpent de bois, s'était enroulée autour de son tronc, l'avait enserré de sa vigueur nouvelle, et depuis, l'étranglait lentement. «
busted gun for hire. Don't let them get you, boy. Now you shut head. The lights there are coming round again. I'm trying to get out of the city. You know where I can be found. The beaten side of town won't ever let you down. I woke up this morning from a crazy dream. The earth was a burning.
Beaten Side of Town, sur la première Barry Adamson. On a le temps encore pour une histoire étrange, ce soir d'Halloween. C'est un conte d'Anton Pavlovitch Tchekhov, Le miroir courbe. Ma femme et moi entrâmes dans le salon. Il y régnait une odeur de mousse et d'humidité. Des millions de rats et de souris se jetèrent de tous côtés lorsque nous éclairâmes les murs qui n'avaient plus vu de lumière depuis un siècle. Lorsque nous refermâmes la porte derrière nous, cela provoqua un courant d'air qui remua les papiers dont il y avait des monceaux dans les coins. La lumière tomba sur ces papiers et nous vîmes de vieux écrits et des dessins moyenâgeux. Sur les murs verdis par le temps pendaient des portraits d'ancêtres. Les ancêtres regardaient hautains et graves comme s'ils voulaient dire « Mon vieux, tu mérites une correction ». Nos pas résonnaient à travers toute la maison. À ma toux répondait un écho. Le même écho répondait à mes ancêtres. Et le vent ululait et gémissait. Quelqu'un pleurait dans la cheminée. Il y avait du désespoir dans ses pleurs. De grosses gouttes de pluie tapotaient les vitres obscures et ternes et ce tapotement dispensait l'angoisse. « Oh, ancêtre, ancêtre !» dis-je en soupirant. « Si j'avais été écrivain, j'aurais écrit un long roman en regardant vos portraits. » Chacun de ces vieillards avait été jeune dans le temps. Chacun et chacune avait eu un roman. Et quel roman ! Regardez par exemple cette vieille dame, mon arrière-grand-mère. Cette femme sans beauté, laide, a une histoire des plus intéressantes. « Vois-tu, » demandai-je à ma femme, « vois-tu le miroir qui pend là dans le coin ?» Et je montrai à ma femme une grande glace dans un cadre de bronze noir suspendu dans le coin, près du portrait de mon arrière-grand-mère. Eh bien, ce miroir possède des propriétés particulières. Il a perdu mon arrière-grand-mère. Elle avait payé très cher et elle ne s'en était jamais séparée jusqu'à sa mort. Elle s'y mirait, jour et nuit, s'y mirait sans cesse, même en buvant et mangeant. En se couchant, elle le mettait chaque fois avec elle dans le lit. Et en mourant, elle demanda qu'on le place dans son cercueil. Mais on n'exécuta pas son désir uniquement parce que le miroir n'y entra pas. Ah bon ? Mais est-ce qu'elle était coquette ? Demanda ma femme. Admettons. Mais enfin, n'avait-elle pas d'autres miroirs ? Pourquoi s'était-elle mise à aimer justement cette glace et non une autre ? N'avait-elle pas de glace meilleure ? Non. Ici, ma chère, il y a quelques terribles mystères. Pas autrement. La légende dit qu'il y a un diable dans ce miroir et que mon arrière-grand-mère avait un faible pour les diables. Bon, évidemment, ce sont des bêtises. Mais il est incontestable que le miroir au cadre de bronze possède un pouvoir mystérieux. Je chassais la poussière du miroir, m'y regardais et pouffais de rire. L'écho répéta mon rire en sourdine. Le miroir était difforme et avait tordu ma physionomie en tous sens. Mon nez se trouvait plaqué sur ma joue gauche, le menton s'était dédoublé et s'étirait de côté. Elle avait un étrange goût, mon arrière-grand-mère. Et ma femme, indécise, s'approcha de la glace et y regarda également. Et aussitôt, quelque chose de terrible se passa. Elle pâlit, elle trembla de tous ses membres, et elle poussa un cri. Le chandelier tomba de ses mains, roula à terre et la bougie s'éteignit. L'obscurité nous enveloppa. Et j'entendis aussitôt la chute de quelque chose de lourd. C'était ma femme qui s'évanouissait. Le vent gémit encore plus lamentablement. Les rats se mirent à courir et les souris remuèrent dans les papiers. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête et se mirent à bouger lorsqu'un volet se détacha de la fenêtre et fut précipité en bas. La lune apparut au carreau. Je saisis ma femme, l'étreignis et l'emportai hors de la demeure de mes aïeux. Et elle ne reprit ses sens que le lendemain soir. Le miroir. Tenez-moi le miroir, dit-elle en revenant à elle. Où est le miroir ? Durant la semaine qui suivit, elle ne but ni ne mangea, mais ne cessa de demander qu'on lui apportât le miroir. Elle sanglotait, elle s'arrachait les cheveux, s'étiolait, et lorsque le médecin eut déclaré qu'elle pouvait mourir d'inanition et que son état était grave au plus haut degré, alors surmontant ma peur, je redescendis au salon et lui rapportai le miroir de l'arrière-grand-mère. Et à sa vue, elle rit de bonheur, ensuite le saisit, l'embrassa et y vissa ses regards. Et voilà, plus de 10 ans ont passé et elle se regarde encore, toujours dans la glace, sans en détacher les yeux un seul instant. Est-il possible que ce soit moi ? Dit-elle. Son Son visage s'illumine, rougissant dans une expression de béatitude et d'extase. « Oui, c'est moi. Tout ment, sauf ce miroir. Les hommes mentent. Mon mari ment. Oh, si je m'étais vue plus tôt, si j'avais su comment j'étais en réalité, je n'aurais pas épousé cet homme. Il n'est pas digne de moi. Je dois avoir à mes pieds les plus beaux, les plus nobles chevaliers. » Un jour, me tenant derrière ma femme, je regardais par mégarde dans le miroir et j'y vis une femme d'une beauté éblouissante, comme je n'en avais encore jamais rencontrée dans ma vie. C'était un miracle de la nature, une harmonie de beauté, de grâce, d'amour. Mais que s'était-il passé? Qu'était-il arrivé? Pourquoi ma femme, sans beauté, lourdaude, paraissait-elle si belle dans la glace? Et pourquoi? Mais parce que le miroir difforme avait tordu en tous sens le visage sans beauté de ma femme, et par la déformation de ses traits, il devenait accidentellement merveilleux. Moins, multiplié par moins, avait donné plus. Et à présent, ma femme et moi, nous sommes tous deux assis devant le miroir, et y regardons sans nous en détacher un instant. Mon nez grimpe sur la joue gauche, mon menton se dédouble et se pousse de côté. Mais le visage de ma femme est fascinant, et une passion sauvage, folle, s'empare de moi, et je ris comme un démon, et ma femme murmure tout bas « Comme je suis belle. Oh oui, comme je suis belle. »
Avant que la nuit vienne, perchée sur son balcon, elle murmure un poème, It's just a song. Pendant que d'autres dorment, la lune en toile de fond, sur les toits elle fredonne un petit air sans nom. Qu'elle est folle quand elle parle au flocon, c'est l'unique symbole, c'est l'unique trait d'union. Pour se rappeler de celle dont elle n'a qu'un prénom, dans un lambeau de ciel, elle écoute sa chanson.
What have I done? What have I done? How could I be so blind? All is lost. Where was I? Spoiled all. Spoiled all. Everything's gone all wrong. What have I done? What have I done? Find a deep cave to hide in. In a million years they'll find me. Only dust and a plaque that reads, here lies poor old Jack. But I never intended all this madness. Never! And nobody really understood. Well, how could they? That all I ever wanted was to bring them something great. Why does nothing ever...
D'abord Saul et puis Paul Jack, Plain White Tees. Et il est temps de fermer nos livres inquiétants et de faire de beaux rêves maintenant. Si, si. Adrien Mayora a réalisé l'émission et Jean-Baptiste Roumens a choisi les chansons. Après les infos, la ligne de cœur avec Stéphane Thiébaud. Belle fin de soirée sur la première, 22h.